Guéraud Jung, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste chez Mirabeau Asset Management. On va parler avec vous effectivement d'économie, de perspectives économiques et de stratégies d'investissement. Comment vous abordez-vous, notamment les États-Unis? C'est le sujet du moment, bien entendu, avec ces questions politiques, ces questions de dette, questions de taux. Vous les regardez comment les États-Unis aujourd'hui?
Alors nous pensons, nous prévoyons une accélération de la croissance au deuxième semestre, donc déjà qui a commencé au troisième trimestre, qui va continuer au quatrième trimestre. Un pilier important, un support important pour l'économie américaine, à notre avis, c'est le marché immobilier, qui inclut évidemment le marché de construction, qui marche assez bien. Nous sommes assez optimistes sur le marché immobilier, avec un appui sur la croissance au troisième et au quatrième trimestre, qui devra aussi continuer tout au long de l'année prochaine. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est le désendettement des ménages qui continue, qui va s'améliorer. On voit par exemple l'octroi de crédit aux États-Unis augmente. Donc ça veut dire que les ménages se sont désendettés déjà de façon assez importante. Et avec l'augmentation des prix immobiliers et des prix d'actifs d'ailleurs, les ménages seront moins endettés. Et donc la consommation ou la demande interne sera un apport positif aussi pour la croissance américaine. Et troisièmement, c'est l'environnement externe qui s'améliore. L'économie mondiale devra s'accélérer légèrement, mais va s'accélérer. Donc ça, c'est aussi un impact positif sur la croissance américaine, à notre avis.
Est-ce qu'il n'y a pas eu justement des doutes avec justement la réserve fédérale américaine qui, en tout cas, tous les investisseurs pariaient sur ce mois de septembre comme un début de, en tout cas, d'un quantitative easing un peu moins important. Ça n'a pas été le cas. On se dit, bah, finalement, si la réserve fédérale américaine ne fait rien, c'est que l'économie n'est pas encore sortie d'affaire.
Alors c'est certainement le cas, la croissance reste assez molle, hein. La croissance reste au-dessous de la croissance potentielle du trend aux États-Unis. Nous avons toujours pensé que la réserve fédérale donc va continuer ses achats. Nous n'avons pas anticipé une réduction des achats de 85 milliards par mois de la réserve fédérale prévue par beaucoup avant le 18-19 septembre. Une des raisons principales, c'est certainement la croissance reste assez molle, premièrement. Deuxièmement, l'inflation reste très basse. L'objectif de la Fed est un taux d'inflation de 2%, alors que là, par exemple, selon certains indicateurs sous-jacents, on a une inflation qui est légèrement au-dessus de 1%, donc très loin des 2% que la Fed vise dans sa politique. Donc ça, c'est un apport aussi important à notre avis, une des raisons pourquoi la Fed va continuer sa politique ultra-expansionniste. Troisième point important, évidemment, c'est le marché du travail. On voit une nette amélioration, mais c'est vrai qu'en ce moment, vendredi dernier, nous n'avons pas eu les créations d'emplois dues à la fermeture de certains bureaux aux États-Unis, certains bureaux étatiques. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que le gain d'emploi reste quand même assez faible, hein,
Donc
la
il y a
moyenne.
encore, voilà, on est loin des objectifs qui s'étaient fixés, en tout cas de ce point de vue-là.
Absolument, il y a des révisions, mais là, on est à 180 000 de gain d'emploi net par mois. La moyenne de cette année, ça reste quand même assez faible.
Alors, est-ce que du côté de l'Europe, on a parlé de sortie de récession, on voit quelques indicateurs qui sont un peu positifs. On a vu en tout cas sur les marchés, les investisseurs s'intéressaient énormément à l'Europe, qui est redevenue un endroit en tout cas intéressant pour beaucoup d'investisseurs, jugé intéressant. Sur le plan économique, comment vous jugez l'état de l'Europe aujourd'hui?
Alors, premièrement, concernant les risques systémiques qui étaient au centre vraiment de beaucoup d'investisseurs et de beaucoup d'analystes, nous n'avions jamais pensé que la zone euro va exploser, c'est-à-dire que certains ou un pays ou plusieurs pays vont quitter la zone euro. Pour nous, c'est absolument exclu. Pourquoi? Parce que les raisons économiques et aussi politiques, mais surtout économiques, sont au désavantage d'un pays et bien d'un pays qui pourrait sortir éventuellement, hypothétiquement. Et deuxièmement, pour le reste de la zone euro. Donc ça, c'est un premier point, un risque systémique que nous considérons évidemment comme beaucoup d'autres investisseurs. Deuxième point, c'est vrai, officiellement, la zone euro est sorti de la récession. Ça c'est une bonne chose au deuxième trimestre. Nous nous attendions à une reprise dans la zone euro. Par contre, nous pensons aussi qu'en allant au futur, il y a beaucoup de problèmes où il y a des problèmes structurels fondamentaux qui restent non résolus. On peut notamment penser à l'union bancaire, à la mutualisation de la dette. Ce sont des problèmes fondamentaux, des questions fondamentales qui restent et qui ne sont pas résolues. Donc, en regardant dans l'avenir, nous prévoyons une croissance entre 0,5, à peu près autour des 0,5% cette année, une légère accélération l'année prochaine.
Alors, on a vu aussi que du côté des pays émergents, ce qui s'était passé aux États-Unis et en Europe avait eu de l'impact, peut-être plus qu'anticipé par certains. Est-ce que de votre point de vue, les pays émergents peuvent, j'irais, retrouver un peu de leur croissance perdue, même s'ils ont une croissance supérieure à nos pays?
Bon, je pense que globalement, les pays émergents ont un taux de croissance très supérieur par rapport aux pays industrialisés. Ça, c'est un premier point, c'est vrai. Ça devra continuer cette année et l'année prochaine. Par contre, nous différencions aussi entre les pays émergents. C'est évidemment un domaine très vaste. Nous regardons notamment les fondamentaux macroéconomiques. Et là, on peut différencier entre les pays qui ont, par exemple, un compte courant en surplus, qui sont plutôt positifs, ce qui est plutôt positif. Donc, nous sommes assez constructifs, par exemple, sur des pays comme la Chine, la Thaïlande et la Corée. Ces pays-là, donc, qui ont un compte courant en excédent. Par contre, les pays qui sont plus vulnérables, c'est notamment les pays qui ont un compte courant en déficit et qui sont très dépendants de financements, notamment court terme. Donc, sur ces pays-là, nous sommes un peu plus prudents.
Du côté justement de peut-être de la stratégie d'investissement, quand on voit cette évolution économique, on pourrait dire que c'est encore loin effectivement d'une croissance, notamment aux États-Unis, comme attendu. On a encore pas mal de doutes. Il y a des marchés qui ont quand même des indices qui sont au plus haut, pas mal d'indices boursiers. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement, où il faut aller investir aujourd'hui?
Alors, notre recommandation autour de notre comité d'investissement de la Banque Mirabeau, nous recommandons une surpondération en actions, notamment en actions américaines et européennes, puisque nous pensons que selon nos indicateurs, les fondamentaux s'améliorent et ça se verra aussi dans une croissance, même si c'est léger, mais une croissance un peu plus forte. Donc ça se traduira aussi par des profits des entreprises qui devra s'améliorer dans le futur et donc des indices boursiers qui devront s'améliorer aux États-Unis et en Europe.
Il y a des zones à éviter, des stratégies où il faut éviter effectivement d'investir.
Alors nous sommes plus prudents sur les obligations gouvernementales. Hein. Nous pensons que la normalisation des taux va arriver un jour. Donc nous restons plutôt prudents sur la dette gouvernementale et bien en Europe et aux États-Unis.
Merci, Gero Jung, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc chef économiste chez Mirabeau Asset Management.
Merci.